Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Salut les cyclistes de l'hiver et de l'été, un rayon libre spécial aujourd'hui, un rayon libre d'une heure. Il faut bien une heure pour ce sujet, de ceux qui savent à celles qui apprennent. Un rayon libre qui n'est pas en direct. Merci à Cause Commune et celles et ceux qui contribuent à rendre possible ce rendez-vous hebdomadaire qu'est Rayon Libre. Émission qui est en partenariat avec wheels.west-france.fr. Merci évidemment à l'association Libre à Toi, merci à Abel Guggenheim, merci aux invités qui viennent se raconter. Alors vous, auditeurs, auditrices, d'ailleurs, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les envoyer directement sur jerome@wheels.fr. Wheels, ça s'écrit W-E-E-L-Z. J'ai une conviction, moquez-vous, une conviction, n'est-ce pas un peu court? Et demandez-moi si j'ai des valeurs ou une valeur tant que vous y êtes. En tout cas, j'ai une conviction concernant le récit du vélo et des cyclistes. Il devient urgent de changer de récit, changer de porte-parole, changer de discours. Mon métier, raconter et tenter de comprendre le monde du vélo. D'ailleurs, au micro de Rayon Libre, je n'exerce pas tout à fait mon métier, puisqu'un métier, c'est être payé pour faire quelque chose. Rayon Libre, c'est une émission qui est intégrée dans une radio associatif, cause commune, associatif veut dire bénévolat, souvent. Mais ce n'est pas mon sujet du jour, donc oui, mon métier, pour tenter de comprendre le vélo, puis le raconter, c'est donc d'assister, souvent, à des conférences, des échanges, des tables rondes. Et je vous avoue, je crois qu'il est temps que la façon de raconter le vélo change. Aujourd'hui, on entend beaucoup et souvent ceux qui savent. Un peu aussi, et mais moins quand même, celles qui savent. Ceux et celles qui décident. Il et elle nous expliquent les intérêts du vélo. Il et elle nous expliquent par le menu les constats faits. Puis, sur la base de ces constats, une liste de « il faut » Il n'y a qu'à Faucon, on a mis en place, voilà ce qui est important. En 2024 et même en 2025, je crois qu'il est temps de passer la seconde, de changer de propos, être moins sur le discours descendant, mais un propos ascendant. Le discours descendant, c'est « on sait », le discours ascendant, c'est « on fait ». C'est l'envie que j'ai avec Rayon Libre en 2025, moins donner la parole à ceux et celles qui savent, mais la donner plus à ceux et celles qui font. Je crois que le récit du vélo est en manque d'exemples concrets, de témoignages de personnes qui pédalent, donner la parole à des citoyens, des citoyennes qui n'ont rien d'autre à vendre que leur histoire. Des cyclistes qui nous racontent, qui ont fait leur transition, qu'ils et elles nous disent leurs déclics, leurs envies, leurs découvertes. Des témoignages pour sortir des éléments de langage de ceux et celles qui portent la politique vélo. Des témoignages de personnes qui permettront aux autres citoyens, celles, ceux qui ne pédalent pas, de se projeter dans ces récits. Qu'ils et elles puissent se dire, il l'a fait, je me reconnais en lui, je peux être moi aussi sur un vélo. Elle s'y est mise, elle me ressemble et pourquoi pas moi? Peut-être qu'en passant d'un discours descendant à un discours montant, le vélo pourra faire sauter son plafond de verre, entrer vraiment de plein pied dans le quotidien des citoyens, dans leur vie. Peut-être qu'il faut donner la parole à des citoyens qui ne sont pas passionnés par le vélo, mais qui sont capables de tenir des propos passionnants à propos du vélo. Des citoyennes pas encore passionnées, qui sont encore en phase de découverte, elles deviendront passionnées, mais peut-être plus tard. C'est ce que nous allons essayer de faire lors de cette émission spéciale, puisque j'ai autour de la table 4 personnes, 4 femmes, elles ont tout un point commun, elles ont décidé d'apprendre ou réapprendre à faire du vélo. Elles ont chacune leurs histoires, leurs motivations, elles vont nous raconter leur seul point commun, c'est d'être passées par l'école de MDB Clichy, animée et gérée par Patrick Roland. Il est avec elle, lui aussi. Et donc bonjour Christelle, Alexandra, Christine, Oumana et Nora. Vous êtes là toutes les quatre?
Oui.
Alors il faut bien parler dans le micro toutes les quatre. Alors peut-être qu'on va commencer par, vous inviter à vous présenter. Alors je vais le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Alexandra, première question. Oui. Donnez-nous votre prénom. Alors le prénom on le connaît, mais l'âge à la dizaine près, où vous habitez et depuis quand vous êtes mise au vélo?
Oui, alors j'ai 33 ans, j'habite à Paris, 9e. Et je me suis mise au vélo il y a un an et demi.
Et vous nous direz après pourquoi. Nora, vous pouvez me dire, vous aussi?
Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors, je suis Nora, j'ai 39 ans, bientôt 40. Et j'ai décidé de me lancer et d'apprendre à faire du vélo il y a 3 mois, en septembre 2024.
Donc, vous êtes la toute nouvelle de l'équipe.
Exactement, la junior.
La junior. Oumama Ben Mamouche, hein, c'est ça?
C'est bien.
Est-ce
ça.
Que vous pouvez nous dire aussi l'âge que vous avez, où est-ce que vous vivez et depuis quand vous êtes mise au vélo?
Bien sûr. Bonsoir. Moi, c'est Oumama, j'ai 31 ans. Quand j'ai appris à faire du vélo, enfin, j'ai décidé d'apprendre à faire du vélo, j'en avais 28.
Oui.
Donc là, ça fait un bon moment, hein. Ça fait bientôt 3 ans et j'habite à Clichy.
Oui. Très bien. Et alors vous, Christine Yamamoto, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, qui vous êtes?
Oui. Alors donc, je m'appelle Christine, je suis donc non pas la junior, mais la senior. Je suis déjà à la retraite depuis cet été. Ouais. J'avais une occupation très prenante, j'avais un magasin avec le nom japonais. On peut imaginer que j'avais un rapport avec le Japon. Donc en fait, oui, j'importais des tas de choses du Japon. Et je me disais quand même toujours, quand j'aurai du temps libre, avant d'être trop vieille, j'aimerais bien quand même faire du vélo. J'en avais fait très jeune, mais j'ai eu une interruption très longue. Et voilà. Et donc, j'ai commencé en trouvant l'association de Patrick en juillet dernier. J'ai vendu mon magasin le 17 juin et j'ai commencé la première semaine de juillet à monter sur un vélo ou à remonter sur un vélo.
Alors, c'est intéressant. Et là, on va y revenir. On va quand même donner la parole à Patrick qui va aussi se présenter. Mais c'est intéressant. C'est une envie que vous aviez depuis très longtemps.
Oui, tout à fait. Et j'avais une sorte de complexe quand je partais en vacances, quand je voyais quand même de plus en plus les vélos qui étaient des promesses de promenade, d'évasion et tout. Et je trouvais toujours des prétextes, en fait, dans mon petit entourage pour... je disais pas... Parce que j'en ai fait quand même quand j'étais jeune. Mais j'ai dû arrêter au moment où j'ai fait mes études supérieures. Donc, j'ai arrêté peut-être pendant 40 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais quand même très envie. Mais je savais que c'était pas possible parce qu'il fallait... Je travaillais le samedi. Enfin, c'était... compliqué. Et juste pour dire ce que j'ai essayé de faire, c'est un jour avec mon fils, lui fait beaucoup de vélo, il a surtout le Vélib en fait, et il m'a dit écoute, essaye. Et donc il a pris un Vélib, et c'était quand même au coin de la rue de Levallois où j'habite, et dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup quand même d'espace. Et en fait il m'a dit écoute, ça craindra pas, tu vas dans le petit parc. Alors le petit parc avec des allées assez étroites, le gros Vélib très lourd, je monte dessus, aucun équilibre, je vais directement dans les espèces de petites rambardes enfin métalliques qu'il y avait autour. Donc ça m'a totalement paniqué.
Ça vous a figé.
Et je me suis dit, toute seule, je ne pourrais pas. Et quand donc j'ai cherché, que j'ai trouvé le bon endroit, débloqué.
Donc ça veut quand même dire, mais on y reviendra après, ça veut quand même dire que l'adage qui dit une fois qu'on a appris à faire du vélo, on sait faire pour la vie, c'est pas vrai.
Eh bien, je me pose la question.
Eh bien, on va en parler.
Oui,
on va en parler.
Peut-être qu'après, j'ai repris un peu plus vite qu'un novice, ça c'est sûr. Mais j'ai eu la phase de recommencement à zéro, ça c'est sûr.
Okay, alors Patrick, elles sont toutes passées dans ton école, hein, c'est ça? Donc toi, Patrick, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît,
oui,
aussi?
Oui, moi c'est Patrick Roland. Donc je suis le représentant de l'antenne MDB de Clichy. Hein, MDB est mieux se déplacer à bicyclette. Donc j'ai créé l'antenne en 2008. Et dès 2009, j'avais déjà des gens qui me demandaient pour apprendre à faire du vélo. Ça, c'est un phénomène qui se concrétisait depuis quelque temps au niveau de l'association. Et donc, on s'est renseigné avec des copains à Montreuil.
Ouais.
Et pour apprendre nous aussi à être le moniteur le plus efficace possible, sans créer d'accident, avec très peu de moyens, on a commencé dans mon garage. J'avais un box, comme je n'avais pas de voiture, j'en ai toujours pas, mais j'avais de la place pour mettre quelques vélos dans mon box, et on a commencé comme ça, dans mon quartier. Et peu à peu, on a évolué sur la ville de Clichy, et un petit peu dans le 17e arrondissement, il y a quelques années. Et puis voilà, donc on a eu progressivement de la demande constamment tout au long de l'année, avec des pointes au printemps et à la rentrée, mais rentrée de septembre. Et ça s'étale bien.
Il y a encore une vraie saisonnalité dans l'apprentissage ou l'envie d'apprendre à faire du vélo?
Il y a des points de demande des gens de tous bords qui nous contactent souvent à l'approche des vacances, donc c'est un peu tard quand même.
Ouais.
Oui, parce que l'idéal, voilà, c'est de commencer au printemps.
Pour être prête.
À la sortie de l'hiver, c'est parfait.
Ouais. Ouais. Et alors, autour de la table, on n'a que des élèves du genre féminin. Tu as des élèves du genre masculin ou pas du tout?
Alors, on a quelques garçons d'hommes, des fois âgés, souvent des jeunes quand même, qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à faire du vélo en famille. Alors, la difficulté, voilà, pourquoi les gens n'ont pas pu apprendre, c'est soit par des cultures différentes des nôtres.
Oui.
Alors, je les rassure, je leur dis, en France aussi, il y a un siècle, le vélo n'était pas recommandé pour les dames. Il y a des gens qui étaient plutôt hésitants là-dessus, sur le côté médical et tout ça. Et peut-être aussi pour leur liberté. Et donc, je leur dis qu'avec la Première Guerre mondiale, les dames ont eu beaucoup de liberté parce que c'était elles qui faisaient tourner le pays pour nourrir la France et faire tourner les usines. Et donc là, elles ont trouvé de la liberté. Et donc, elles se sont mises au vélo aussi. Et donc, voilà, on a des gens aussi de tout niveau. On a des gens, des fois, qui leur manque pas grand-chose pour être autonomes, et d'autres qui n'ont jamais eu de vélo. Alors, oui, les phénomènes, c'est qu'il y a beaucoup de circulation, quand même, dans les grandes villes, hein, même en province. Donc, il fait un peu peur aux gens d'aller rouler avec des enfants, donc les enfants n'apprennent pas. Les petits logements aussi, où il n'y a pas de place pour les vélos,
oui.
ça réduit aussi les possibilités. Et ensuite, les transports en commun assez développés, qui fait que, bon, s'il y a une voiture aussi dans la famille, et les transports, on ne passe pas au vélo. Et donc, les gens... Donc, il y a eu un phénomène aussi avec l'arrivée du Vélib à Paris, où beaucoup de gens veulent copier les collègues ou la famille. Donc, nous, on a toujours de la demande. Donc, cette année, on a battu le record. On a eu 70 adhésions pour apprendre à Clichy. Donc, dès qu'on a de la place, on libère...
Mais alors, justement, je vais me tourner vers vous quatre, mesdames, Alexandra, Nora, Oumama et Christine. Ce que vous disiez, Christine, c'est qu'il y avait une sorte de complexe de ne pas savoir faire du vélo, ou un complexe de ne pas... Alors, vous le saviez, mais en tout cas, vous n'étiez pas à l'aise. Est-ce que vous autres, les trois autres dames qui sont autour du micro, vous aussi, il y avait une sorte de complexe de ne pas savoir faire du vélo, Oumama, ou Nora, ou qui vous voulez?
Alors, personnellement, non, c'était pas vraiment un complexe. C'était pas vraiment un complexe, c'était plutôt un, enfin, je sais pas comment le dire en français, mais fear of missing out. C'est la peur de rater quelque chose, et surtout, ben, vu que j'aime voyager et que j'aime découvrir, c'est un jour, je me suis dit, ben, si je voyage et qu'en fait on peut bouger qu'en vélo, comment est-ce que je vais faire? Et c'est à ce moment où j'ai eu le déclic et j'ai commencé à chercher pour faire du vélo.
Donc vous, c'était pas du tout dans un objectif de vous déplacer au quotidien?
Absolument pas.
Vous en aviez pas besoin?
Mais absolument pas. Et surtout, comment elle est la circulation, je me suis dit avec moi-même, ben, je vais jamais rouler en ville, en vélo.
Ouais.
Et si je le fais, ben, ça va être pour les balades et ça va être pour les voyages, ainsi de suite.
Donc vous aviez une approche très touristique, entre guillemets, de cet objet. Et vous, Alexandra? Pareil, bien devant le micro, Alexandra.
Oui, je vais peut-être revenir sur la question de base aussi. De, est-ce qu'il y avait de l'appréhension ou de la gêne? Moi, j'avais une forme de honte, à pas savoir faire de vélo, parce que dans mon entourage, c'était assez original. Dans mon entourage, les gens, ils avaient appris à faire du vélo quand ils étaient petits, et du coup, moi, ça n'a pas été mon cas pour plein de raisons. Et du coup, le fait de pas en savoir en faire, j'avais peur que ça porte un jugement sur ma vie familiale, mon éducation. Et un peu comme Christine, chercher des prétextes pour éviter le vélo quand l'occasion se présentait. Et c'est que très récemment que je me suis dit non, je vais me prendre en main, ça va pas rester une honte et je vais pas rester bloquée là-dessus, quoi.
Est-ce que vous diriez que c'est comme c'est aussi aussi humiliant entre guillemets que de pas savoir nager?
Je sais pas. Enfin, moi en tout cas dans mon entourage c'était vraiment pas commun.
Ouais.
Et c'est bête, mais là quand j'habitais à Saint-Ouen ou même à Paris, enfin toutes les piscines elles ont des cours pour apprendre à nager ouverts aux adultes. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus visible en tout cas.
Oui, c'est ce qu'on disait hors micro, c'est que on a envie d'apprendre à nager, on va à la piscine et on demande est-ce qu'il y a des cours, on a envie de faire du vélo. La vélo-école, elle n'est pas identifiée dans la ville.
Oui, c'est ça, c'est pas un truc auquel on pense forcément dans le langage commun, enfin dans les préjugés qu'on a, c'est plutôt la famille qui apprend à faire du vélo.
Oui. Et vous?
Oui, alors moi, je n'étais pas non plus complexée de ne pas faire de vélo. Moi, je suis automobiliste, ça fait plus de 20 ans que je conduis.
Ouais.
Je n'avais pas cette gêne de me dire que je n'allais pas faire du vélo, mais pour rejoindre en effet Oumama, je me suis retrouvée dans des situations où en vacances, les activités c'était en vélo, pour se déplacer c'était en vélo, donc je n'avais pas honte de dire ben, on ne va pas faire cette activité-là, mais je sens qu'avec le temps, ça peut en effet me mettre des barrières et louper peut-être des activités qui peuvent être sympas. Donc, j'ai décidé de sortir de mon confort d'automobiliste et de pouvoir justement me lancer à vélo. J'avais vraiment... Alors, moi, j'avais aussi une... Moi, j'avais plus la peur de commencer à faire du vélo à mon âge, trouver l'équilibre, est-ce que je vais y arriver? Alors, sur la route, c'était... inenvisageable.
Oui.
Grâce à Patrick, on a fait des balades. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je serais capable toute seule de prendre un vélo et d'être sur la voie Jean Jaurès à Clichy. Mais en tout cas, aujourd'hui, prendre un vélo et faire du vélo, ça, j'en suis capable.
Oui.
Après, ça va venir avec le temps. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait non plus comme Alexandra quand j'étais petite. Donc, se dire, on me disait, oui, mais ça s'oublie pas. Oui, mais pour que ça s'oublie pas, il faut en faire.
Faut avoir appris.
Donc, du coup, je me suis lancée. J'ai dit, voilà, c'est plus par curiosité et par envie de pouvoir me lancer un nouveau challenge, de pouvoir justement faire du vélo. Et je regrette pas du tout puisque ça allait très vite et on a un superbe accompagnement. Donc, j'invite tous ceux qui, justement, n'en font pas ou ont peur d'en faire, de se rapprocher des vélo-écoles hein, qui existent en cherchant sur Internet ou alors dans les journaux de la ville parce qu'on a un accompagnement et ça permet justement d'être en confiance et d'apprendre dans des conditions les plus optimales, les plus sereines pour pouvoir ensuite se lancer seul.
Et alors, j'ai une question qui va vous concerner toutes les quatre, peut-être vous un petit peu moins Christine, mais quand même... Est-ce que vous avez identifié, et c'est un peu ce que vous disiez aussi Alexandra, est-ce que vous avez identifié pourquoi vous n'avez pas appris plus jeune ?
Moi, je pense que c'était tout simplement parce que j'ai pas eu envie et que j'ai eu peur. Peut-être quand on m'a enlevé les deux roues, j'ai dû dire que je voulais pas. Donc, je pense qu'ils n'ont pas insisté. Ouais. Il n'y avait pas un besoin. Alors moi, je suis d'originaire de la Guadeloupe et j'ai vécu en Guadeloupe. Ça fait 20 ans que je suis en France et 19 ans que j'ai passé en Guadeloupe.
Ouais.
Exactement, métropole. Donc, je pense qu'à l'époque, pas à l'époque, mais chez nous, ça reste plus un loisir qu'un moyen de déplacement. Donc, je pense qu'à l'époque, j'ai dû dire que je ne voulais pas en faire. On n'a pas insisté et puis on est passé à autre chose.
Mais alors, par exemple, puisqu'on est ensemble à discuter, Nora, est-ce que vous avez des frères et sœurs qui, eux, ont appris
Non, je suis fille unique.
Ah, vous êtes fille unique.
Donc, je pense aussi que c'est pour ça qu'on n'a pas insisté et que je n'ai pas insisté et que je suis passée à autre chose.
Et vous, Christine, vous avez appris petite ?
Alors oui, c'est justement peut-être très différent, parce que dans mon milieu familial, je suis née quand même dans une petite bourgade, on va dire, en province. Et bon, il y avait de l'espace, mes grands-parents avaient une maison, il y avait du terrain et tout. Tout le monde faisait du vélo. C'était une évidence. Alors moi, oui, on m'a jamais posé la question. On m'a mise, comme elle disait, sur un petit vélo avec des roues, des petites roues. Après, on les a enlevées, mais il n'y avait pas de crainte parce qu'il y avait de l'espace. Je me rappelle que derrière, chez mes grands-parents, il y avait une espèce de grand chemin où il n'y avait pas de voiture qui passait, etc. Donc, et puis, c'était une espèce d'émancipation pour l'enfant de pouvoir suivre après peut-être les adultes. Et puis, un peu plus tard, c'est pour ça que j'en ai quand même fait, c'est sûr, puisque quand j'allais en grandes vacances, avant de partir plus avec, je sais pas, des genres de colonies, des choses comme ça, mais quand j'étais encore assez petite, j'allais chez mes grands-parents et ils me faisaient confiance. Au bout d'un moment, ils me laissaient aller dans les petites rues autour, etc. Parce que c'était pas du tout, à l'époque, la circulation ou l'ambiance qu'on a maintenant.
Ouais.
Donc voilà.
Donc oui, donc le vélo est juste sorti de votre vie à un moment donné.
Il est sorti de ma vie parce que bon, effectivement, bon, je me suis lancée dans des études qui étaient assez prenantes. C'est vrai qu'après, mon mari, je me suis pas mariée tout de suite avec lui, mais je l'ai rencontré quand même assez jeune. Et lui, il était très voiture.
Ouais.
Il adorait les voitures.
Ouais.
Donc il est décédé malheureusement. Je peux pas lui poser la question, mais vélo, je crois que c'était pas dans sa planète le vélo.
Ouais, c'était
donc
pas...
c'est vrai. Hein. Et donc que même quand on partait en vacances, on faisait des balades à pied, mais le vélo, ça s'est jamais présenté.
C'était donc, pas une évidence.
Non.
Et vous, Alexandra, est-ce que vous savez ou vous avez identifié pourquoi vous n'avez pas appris à faire du vélo ?
Ouais, je pense qu'en fait, il y a eu un petit oubli de la part de mes parents. En gros, mes deux grands frères ont appris à en faire.
Ouais.
Moi, j'ai souvenir d'avoir fait du vélo avec des petites roues. Et mes frères étant plus grands et avec beaucoup d'écart avec moi, je pense qu'il y a peut-être eu ce truc de se dire c'est eux qui vont montrer à la petite dernière comment faire. Et en fait, non, ce n'est pas advenu. Et je pense que aussi, je n'ai pas été en demande parce que, je sais pas, pour plein de raisons. Peut-être qu'aussi, c'est vrai que moi, dans mon petit village, il y avait beaucoup de dénivelé et les distances étaient assez importantes entre mon petit village et la grande ville. Donc, au collège, je m'y rendais en bus. J'ai souvenir de personne qui y allait en vélo.
Ouais.
Donc, peut-être que ça aussi, ça a joué sur le fait que je n'ai pas non plus insisté. Mais mes frères savent faire du vélo, ouais.
Et vous, ou maman
C'est pareil, en fait. Chez moi, tout le monde fait du vélo. Tout le monde sait en faire.
Ouais.
C'est juste qu'entre mes frères et moi, c'est 10 ans d'écart minimum.
Vous êtes la petite dernière ?
Exactement.
Ah, mais c'est ça, vous faites... Mais moi aussi, je suis le petit dernier, mais j'ai appris à faire du vélo.
Pas moi.
Mais ceci dit, donc vous, pareil, il y a une sorte de... Il n'y a pas eu de transmission.
Il n'y a pas eu de transmission. Après, c'est pas que ça. En fait, nous, génération 90, c'est l'arrivée des ordis, c'est les jeux vidéo, c'est je reste chez moi et je sors pas. Et pendant la, quand les gens ils apprenaient à faire du vélo, ben moi je jouais aux jeux vidéo. Hein.
Mais après, alors là je suis avec donc quatre femmes et Patrick. Est-ce que à votre avis, alors c'est compliqué, mais est-ce qu'à votre avis, si vous aviez été un garçon aujourd'hui, vous auriez appris à faire du vélo plus jeune?
Moi je dirais oui.
Ouais.
Je pense que oui.
Moi aussi.
Ouais. C'est unanime. Donc ça veut dire que ouais, donc les garçons, on leur offre un camion de pompiers, on leur apprend à faire du vélo, et les filles, on leur offre des poupées et on les emmène à la danse.
C'est ça. C'est pas que le vélo a une image violente, mais bon, il y a un truc physique, etc., qu'on a plus ou moins réservé aux garçons pendant longtemps. Et je crois que ça change quand même vraiment, et que les femmes, les filles, on revendique d'avoir aussi leur force, leur indépendance et leur capacité exactement comme les garçons. Mais je pense que il y a eu toute une époque où voilà, c'était pas du tout ça.
Oui, mais c'est intéressant. Patrick, alors pour le coup, il faut que tu reprennes le micro, mais est-ce que tu ressens ça quand tu reçois tes élèves? Est-ce que tu ressens ça, cette pratique très genrée, en fait, du vélo?
Oui, c'est effectivement constaté. Hein. Alors aussi, à chaque personne qui arrive à l'association, je pose quelques questions comme ça pour bien connaître s'il y a un blocage particulier. Mmh. Quelquefois, c'est une chute, par exemple... pas forcément tout petit ou enfin dans un apprentissage en famille qui les a un peu bloqués ou voilà une mauvaise chute ou bon après les gens qui essayent par leurs propres moyens en famille s'ils ont pas les mêmes techniques que nous c'est beaucoup plus compliqué en fait hein. Dès qu'on est un peu grand hein, moi j'ai appris par exemple à 8 ans parce que il y avait des vieux vélos à la maison qu'on nous avait donnés mais il fallait les réparer donc mon père il faisait beaucoup de jardin. Et le vélo, il n'avait pas le temps. Enfin, ouais. Donc, c'est un cousin à la campagne qui m'a appris, qui était ado. Lui, il avait 13 ans, moi 8. Il m'a appris comme ça en quelques heures. Et puis voilà, après, je suis parti.
Alors oui, si je peux me permettre...
Bien sûr. Plus vous serez dans l'interaction, c'est super.
Il y a justement ce fait que des vélos, ça peut tomber en panne, ça doit se réparer. Il faut avoir un peu la main dans le cambouis, etc. Donc dans les familles, il y avait quand même une prédestination à laisser les garçons s'occuper de ça et à moins diriger les filles là-dessus aussi. Je pense que ça jouait.
Et là, à votre avis, toutes les quatre et tous les cinq, l'époque change, je dirais la femme prend... Encore, on est encore loin, mais elle prend plus de place dans la société, même si on est encore très loin. Ça contribue à ce que vous quatre, vous parlez pour vous quatre, vous ayez envie de faire du vélo?
Oui, alors moi, je dois dire, je suis pas très technique. Et que j'ai, alors même si j'ai, je dirais, surpassé mes appréhensions, etc., que maintenant je suis ravie quand je monte sur un vélo, j'ai encore super peur qu'il y ait un truc technique qui d'un seul coup se déclenche. Et voilà, je manque encore de curiosité. Ouais. Et je me dis, il va falloir que j'en ai aussi pour bien savoir ce que j'ai comme engin, entre guillemets. Bon, moi aussi, j'ai été beaucoup en voiture, j'ai eu une voiture. Et donc, déjà, les voitures maintenant modernes, on n'y touche pratiquement pas. Ouais. Il n'y a rien à faire. Donc, je trouve qu'il y a dans nos sociétés, et moi, je compare avec le Japon, par exemple, parce que j'ai su beaucoup de choses en m'intéressant au Japon, il y a des enseignements quand même plus concrets pour les enfants au Japon. Et je ne parle pas spécialement du vélo, mais ils font la cuisine, ils font des tas de choses, garçons ou pas garçons. Alors qu'en fait, c'est une société qui est très genrée, et la femme, après, on lui réserve un certain rôle. Mais quand même, dans l'éducation, il y a une recherche qu'on soit un peu polyvalent. Et je trouve que chez nous, il n'y avait pas du tout ça. Je ne dis pas qu'il faudrait des cours de vélo, mais enfin, il y a encore beaucoup à faire, je trouve, dans la société pour qu'on soit un peu plus, pas seulement dans les bouquins, ou voilà, il faudrait apprendre.
Ou être un peu plus pratique.
Plus pratique,
oui. Voilà. Oui, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, justement, on a quand même beaucoup plus accès à de l'information, à des boutiques de vélo. Enfin, je trouve qu'aussi, il y a peut-être plus de femmes qui osent se mettre au vélo, parce que franchement, à Paris, là, si on a une panne, et qu'on n'arrive pas à trouver sur Internet comment s'en dépatouiller ou qu'il manque un objet, un matériau, il y a quand même des boutiques partout.
Oui, donc ça vient. Moi, évidemment, étant la plus âgée, il faut parler d'aujourd'hui, mais je parle aussi de ce que j'ai vécu, constaté. Et donc ça, c'est quand même un peu une tendance récente, et c'est vachement bien, ça c'est sûr, c'est très bien.
Ouais. Bon, justement, Alexandra, tout à l'heure, là, ce que vous disiez, vous n'avez pas appris à faire du vélo, et au fait, j'ai envie de faire aussi un peu un tour de table, que vous nous rappeliez Aujourd'hui, alors, et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous venez toutes les quatre au studio et tous les cinq, même, il n'y en a pas une qui vient à vélo. C'est-à-dire que vous venez à pied, vous venez en tramway. Ah si, il y a un vélo qui est venu. Il y a Nora qui est venue, qui est, non, c'est pas Nora, c'est Oumama qui est venue à vélo. Les autres, vous n'êtes pas prêtes encore à faire du vélo?
Moi, je me dis, si je parle de moi, j'ai commencé en juillet, grâce à Patrick. Donc, il y a eu d'abord un peu de, voilà, de familiarité, se retrouver confiance, l'équilibre, etc. Et comme disait Nora, on a eu des possibilités de faire quelques balades qui étaient absolument super. Ouais. On ne peut pas en faire toutes les semaines. Et je pense qu'il m'en faut encore quelques-unes. Je n'ai pas de vélo. J'ai tout à fait l'intention d'en acquérir un. Mmh. Pas un truc dernier cri, mais peut-être avec la bourse au vélo, quelque chose comme ça. Un vélo qui soit fiable, mais qui soit, pour moi, la première réexpérience de ça, et après dans mon environnement, etc., je pourrais en faire. Mais là, ça aurait été préconçu, je veux dire, d'arriver toute seule là, de Levallois, de prendre jusqu'à la porte de Saint-Ouen dans la nuit et tout. Pas encore.
Mais vous avez bon espoir de d'y arriver.
Absolument.
Nora Paris.
Oui, alors pareil, je suis comme Christine, donc moi j'ai commencé en septembre.
Ouais.
Alors c'était clairement inenvisageable de prendre un vélo ce soir pour venir vous rejoindre pour plusieurs raisons. Donc déjà, je n'ai pas de vélo pour l'instant, je dis bien pour l'instant, et la notion de Vélib, récupérer un Vélib, savoir quoi faire pour venir, je ne suis pas encore à cette étape, mais en tout cas ça va venir parce que grâce à Patrick et comme le disait Christine, après les cours qu'on a pu faire, donc les ateliers courts on va dire, on a fait des balades on a commencé par 8 km, 12, 17, 21, donc on a pris confiance en nous en allant dans ces balades, mais on était accompagné de Patrick.
Ouais.
Donc on avait on va dire que le chemin était tout tracé.
Ouais.
Prendre un vélo, c'est aussi devoir savoir où passer, gérer la circulation seul ou à deux si on se donne rendez-vous. Donc c'est quelque chose qui viendra. Je pense qu'il faut prendre le temps, se donner le temps, ne pas aller, comme on dit, trop vite en besogne. Mmh. Et du coup, ben, prendre le temps et puis y aller doucement. Donc, c'est la prochaine étape. Et je pense qu'avec Christine, on va se lancer. Hein.
Moi, j'ai quand même eu, en dehors donc, des séances avec Patrick, j'ai eu l'occasion pendant l'été, avec un ami, de louer des vélos. Lui, c'est un bon cycliste. Donc, il savait que mon niveau était encore assez précaire, etc. Mais donc, ça a été quand même aussi un complément au niveau de l'expérience. On était dans la forêt de Compiègne, une autre fois, on était vers Chantilly et j'ai pris une fois un Vélib.
Avec la carte de votre fils.
Exactement, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était lourd. Je me suis dit quand même, j'ai trouvé que c'était crevant par rapport quand même aux autres vélos qu'on prend habituellement. Mais enfin, je suis assez fière de moi, si on peut dire, d'avoir quand même pu faire cette balade en Vélib. Et je suis allée dans Paris jusqu'à Notre-Dame, etc. Donc, mais toute seule, pas question encore.
C'est intéressant. Alors, on va faire une petite pause musicale, mais il y a un vrai sujet aussi que vous abordez là, c'est que tout d'un coup, il y a une autre façon de s'approprier la ville et de se déplacer dans la ville et de se projeter aussi dans la ville. Mais on va en parler après la pause musicale. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur Cause Commune 93.fm. Un rayon libre un peu spécial parce qu'on a quatre apprentis cyclistes, au fait, autour de la table. Et puis, on a Patrick qui les accompagne et qui leur apprend. On va écouter Manatir, Nelly Furtado. On se retrouve dans 3 minutes.
Cause Commune, la voix des communs.
Take it back, take it back, take it back. Crack around. Oh, you
Toujours sur Cause Commune 93.1 FM. Deuxième partie de Rayon Libre avec quatre élèves de MDB Clichy, avec Patrick Roland qui enseigne. Alors donc j'ai au micro Alexandre Asserre, Patrick Roland, Oumama Ben Mamouche, Christine Yamamoto et Nora Paris. Il y a que vous, hein, Oumama Ben Mamouche, qui êtes venu à vélo. Ça y est, vous la ville, elle est, vous l'êtes appropriée avec le vélo.
Exactement. Et franchement, c'est un pur bonheur. Moi qui disais au début que je vais jamais rouler en ville.
Ouais, parce que c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez en introduction. Vous, c'est pour aller faire la touriste à l'étranger.
Parce que là, j'arrive plus à m'en passer. C'est tous les jours. Pour aller au travail, pour aller à la salle de sport, pour aller, je sais pas, pour les petites courses là, 5 minutes, je peux prendre un vélo, ça me.
Et
ça
vous
me
avez votre propre vélo.
Non, je prends le Vélib.
Vous prenez le Vélib.
Exactement.
Et vous, Alexandra, non, pas prête encore.
Non, bah, j'en loue de temps en temps des Vélib ou d'autres types de vélos comme ça qu'on peut choper dans la rue. Mais
je ne sais pas si j'ai le droit de dire les marques et tout.
Mais si, si, vous avez le droit.
Bah, je prends souvent les Lime l'été, je trouve ça très pratique. Mais là, en fait, j'ai déménagé et j'habite vraiment juste à côté de mon travail. Donc, j'ai pas de vélo et j'en loue, enfin, j'en prends le soir quand je suis un peu loin de chez moi pour rentrer, enfin, des trucs comme ça. Mais au quotidien, j'en ai pas le besoin.
Donc, ça veut dire que avant, vous vous déplaciez en transport en commun et maintenant, vous prenez un Lime ou un Dot ou un Tiers ou peu importe, ou un Vélib pour rentrer ou pour vous déplacer.
Ouais, c'est ça. En gros, là, mes trajets quotidiens, ils sont à pied parce que c'est vraiment super proche. Et si je vais boire un verre à l'autre bout de Paris, bah là, je vais penser au vélo. Mais sinon, mes courses, mon trajet au travail, c'est que à pied.
Alors, avant d'évoquer justement comment on s'approprie la ville et comment on se projette dans la ville à vélo, j'aimerais quand même que vous me... Est-ce que vous vous souvenez, toutes les quatre, et même toi aussi, Patrick, de votre première leçon sur le vélo, Alexandra ?
Ouais. Ouais, bah du coup, c'était il y a un an et demi. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que en arrivant chez MDB, il n'y avait pas eu de jugement sur tu sais pas faire de vélo, bah ok, comme toutes les personnes qui sont là autour de toi. Donc ça, c'est assez agréable. Et j'ai été super bien accompagnée parce que ma première leçon, en fait, j'avais un moniteur avec moi tout du long. Et comme pour les enfants, en fait, on était dans une pente et il s'agissait au début de trouver l'équilibre. Et ce qui est cool, c'est que assez vite, je me suis sentie à l'aise et je l'ai vite trouvé. Je craignais de mettre du temps, de je sais pas, d'avoir peur de tomber et tout. Et en fait, je pense que la confiance du moniteur m'a inspirée et que assez vite, j'ai eu l'équilibre en descente et une fois arrivé en bas de la descente, il s'agissait de commencer à pédaler et c'est assez. Franchement, ça allait assez vite. J'étais choquée d'à quel point, à la fin d'une séance, bon, j'étais en sueur, j'étais crevée, mais j'avais réussi à pédaler, quoi.
Vous aviez le track ?
Un peu, ouais.
Pareil aussi, Oumama, vous aviez le track toutes les quatre la première fois ?
Pas personnellement, non, j'avais pas le track. Et surtout qu'en arrivant, en fait, on m'avait donné un petit vélo. Donc, du coup, j'étais pas très loin. Oui. Je me dis, au pire, il se passera rien. Donc, ouais. Par rapport
pas très
à
loin
ça,
ou pas très haut.
Pas très haut. Ouais. Pas très loin de. Enfin, si je tombe, c'est pas. Ouais, pas très loin du sol.
Et vous, Christine, vous vous souvenez de votre première leçon avec...
Alors, oui, je me souviens. Je me souviens que donc j'étais inscrite. Patrick m'avait dit c'est tel jour, ça peut commencer tel samedi. Alors, j'étais vraiment paniquée, je lui ai pas dit, mais en venant dès le matin, je me demande si je tremblais pas même en m'habillant et tout, en me disant ça y est, je vais monter sur le vélo, ça va faire peut-être que la même, ça va faire la même chose qu'avec le Vélib, ça va être ridicule, je vais tomber, etc. Et puis, bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Le vélo m'a semblé quand même déjà sympathique, un peu plus léger. Ouais. Donc, je me suis dit, je peux quand même monter dessus. Et puis, bon, il y avait Patrick, il y avait aussi un autre accompagnateur. Ça a été tout de suite, ça m'a vraiment... C'était pas du tout ce que j'avais pensé. Je veux dire, la réalité a contredit totalement les idées un peu loufoques que j'avais avec cette...
Mais alors, c'était quoi les idées loufoques, justement, que vous aviez?
Je pensais que j'allais pas avoir d'équilibre. J'étais sûre que je n'aurais pas d'équilibre et que j'allais donc tomber. C'était pas peur de me faire mal, mais c'est un peu d'être ridicule et puis de peut-être tout de suite abandonner. Ouais. Et donc, j'ai été heureusement surprise. J'ai aimé tout de suite. On est allé dans cette grande cour. C'était quand même libre, mais j'ai senti que, bon, je pouvais pédaler. Oui, j'ai même été, je dirais pas exaltée, mais enfin, ça m'a justement tellement contrebalancé l'idée négative que j'avais de me sentir bien et tout de suite libre, oui. Avec cet air qu'on ressent quand on est l'air, c'est-à-dire cet air naturel qu'on ressent. Ça a été vraiment super.
Le
donc,
vent dans les cheveux.
Voilà, ouais. Exactement. Et donc, le premier jour, première séance, ça a tout renversé le blocage que j'avais. J'ai été très contente et j'en ai un bon souvenir. Voilà.
Et vous, Nora ?
Oui, alors moi, j'ai pris contact avec Patrick en août 2024.
Ouais.
Je crois à travers ou via un formulaire sur le site internet de la ville de Clichy. Et Patrick m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, voilà, comment ça se passait. Et il m'a proposé justement de venir au local pendant les vacances pour me montrer un petit peu où ils étaient installés, comment ça se passait. Donc, du coup... on a pris rendez-vous, j'ai vu comment étaient les vélos, la cour. Donc tout de suite, je me suis sentie en sécurité parce que j'avais aucune notion de comment se passait un cours de vélo école.
Vous alliez dans l'inconnu complet.
Dans l'inconnu complet, je sais pas s'il y avait des ateliers, si on passait les... Alors Patrick, du coup, j'ai demandé à Patrick, il nous a dit qu'on nous passait les vélos, qu'il fallait juste avoir son casque. J'avais pas trop de track. Vraiment, là où j'avais peur, c'est la première balade en extérieur. Alors ouais. Là, j'en ai pas dormi et le matin, je me sentais pas très bien. Donc, quand Patrick a dit « on y va », là, je sais même plus c'était quoi ma droite de ma gauche et comment il fallait pédaler. Mais une fois qu'on est parti, ça allait. Mais là, par contre, j'avais ce qu'on appelle vraiment le track.
Le track et la frousse.
Et la frousse. Ah ouais, oui, parce qu'on est dehors. Là, on n'est plus dans la cour, là. On est dehors, il y a des bus... Il y a des cyclistes, il y a des enfants, il y a voilà, donc mais après une fois qu'on s'est lancé ça va.
Patrick, à quel moment tu sais quand est-ce qu'un élève ou une élève est prête à sortir de la cour?
Alors ça, c'est une bonne question.
Ah, enfin, ça fait 40 minutes qu'on parle, enfin une bonne question.
Alors déjà pour trouver l'équilibre, on fait le principe de la draisienne. Donc on cherche à trouver l'équilibre avant de pédaler.
Donc pour les auditeurs auditrices, alors je vais poser la question. Voilà. Qui dans la pièce peut me dire ce que c'est qu'une draisienne?
Pas quand on est debout.
Non, c'est le vélo. Donc, c'est
l'ancêtre, la draisienne, c'est l'ancêtre du vélo, hein, qui était un engin en bois d'il y a 200 ans. Hein, bon, on va pas...
Non, mais c'est rigolo. Donc vous avez fait de la draisienne sans le savoir, non, vous étiez comme Monsieur Jourdain.
Non, moi je le savais, ils nous ont montré. En fait, on est juste assis et on pédale pas, juste les pieds un petit peu relevés et on essaie de garder l'équilibre possible.
Les pieds touchent le sol au départ, dans une petite pente idéalement, pour prendre un petit peu de vitesse.
Mais ma question, Patrick, elle n'est pas tellement sur la méthodologie, elle est plus sur à quel moment tu sais et tu sens que cette personne est prête.
Juste ce petit détail de démarrage. La condition pour moi, c'est de savoir tendre le bras pour indiquer la direction et savoir regarder derrière soi pour anticiper dans un carrefour où on doit tourner à gauche, où c'est très important de regarder derrière. Ça, c'est ce qu'on constate dans la circulation tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assez sûr de ce geste-là, même sans rétroviseur. Hein,
mais à quel moment, par exemple, Nora, c'est ce que vous disiez, vous étiez toute stressée la première fois où vous êtes sortie, vous avez mal dormi, vous ne saviez plus votre gauche, votre droite. Ça veut dire qu'il faut quand même, quand on est instituteur ou moniteur vélo, il faut aussi bousculer ces élèves un tout petit peu pour leur dire « mais si, t'es capable ».
Oui, on les met en confiance quand même, on leur dit... Non, alors, moi, j'explique, oui. C'est un petit parcours. Au début, on fait un tour de ville la première fois. On fait tout le tour de la ville de Clichy. Ça nous prend 2 heures, ouais. Avec des explications. On passe.
Et je trouve effectivement que ce premier parcours, ouais, qu'on nous propose, c'est vraiment là très très bien fait, ouais, parce que on a un peu la nouveauté d'être dans la vraie circulation, etc. Mais il a choisi quand même des itinéraires relativement protégés. Donc, il y a une évolution, même sur la première séance de sortie extérieure. Je pense d'abord, ce sont des pistes cyclables ou des vraiment des zones protégées. Donc, il le fait, mais je pense qu'il le fait par étapes. Ouais. Et que j'ai vu, quand on regarde la progression, comme elle disait Nora, il y a la distance qui va augmenter, mais il y a en même temps tout l'environnement qui sera quand même un tout petit peu moins sécurisé, tout en étant quand même, on ne va pas dans des endroits dangereux, je ne crois pas. Alors, j'ai trouvé que la progression, ça aussi, c'est un professionnel qui connaît bien, qui peut quand même nous l'offrir. Après, avec un ami et tout, c'est très sympa, mais je pense qu'il a vraiment, quand vous lui posez une question, et c'est évident qu'il a conçu, je pense, ses sorties progressives et avec des centres un petit peu stratégiques qui vont nous faire évoluer. On va être confronté à telle difficulté ou à telle situation. Et donc, ça nous apporte beaucoup. Et voilà.
Et vous, maman ?
Après, personnellement, c'était pas bousculé, mais c'était plutôt encouragé. C'était un bénévole, c'est Salah. Qui m'en... En fait, c'était vraiment, c'était de l'encouragement. C'était, allez, vas-y, enlève une main, ok. Puis après, la deuxième, puis mets-toi debout, ok, bah c'est bon, tu peux faire du vélo. Ouais. Puis après, avant, on faisait pas du vélo dans la cour d'école, mais c'était un peu plus loin, donc il fallait ramener les vélos au local. Et c'était, il m'avait dit, mais tu sais quoi, vas-y, on va rentrer à vélo.
Ouais.
Et une fois qu'on est rentré, il m'a dit, c'est bon, tu peux commencer à faire les sorties. Et c'était, de moi-même, je serais jamais allée voir Patrick pour lui dire, allez, vas-y, il faut que je commence à. Enfin, je serais partie tous les samedis pendant peut-être 4-5 mois sans souci. Mais vu qu'il m'a en fait encouragée, ça m'a vraiment aidé pour sauter le pas. Et aussi, les balades que propose Patrick, c'est certes très bien pensé, c'est très bien fait, mais c'est aussi, en fait, à chaque fois, ça nous permet de découvrir des endroits. Ben, moi, j'ai découvert Agnières avec Patrick.
Ouais.
Agnières que j'ai vu avec Patrick, c'est pas Agnières que je connaissais avant.
C'est l'intérêt du vélo, notamment, c'est qu'on découvre les villes différemment.
Ça, et vraiment, à chaque fois, en fait, on y va, c'est très agréable. Des fois, c'est stressant, quand on se retrouve à Place de Clichy, mais...
Comment vous avez trouvé, c'est une question qu'on abordait un peu en première partie d'émission, comment vous avez trouvé la vélo-école MDB, Clichy, vous allez sur Internet, vous les voyez dans la rue, comment ça s'est passé? Allez, Alexandre, ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu.
Moi, je suis d'abord allée dans une boutique de vélo, dans une asso qui réparait des vélos pour demander s'ils ne donnaient pas des cours.
Ouais.
Et les personnes étaient un peu surprises de ma demande. Et là, je me suis dit, oulala, ok, donc en fait, c'est pas du tout évident de trouver forcément des endroits où apprendre à faire du vélo.
Donc, il n'a pas su vous répondre?
Non.
Ah, incroyable.
Et pourtant, c'est pas super loin de la vélo-école que j'ai trouvée. Hein, donc, c'est ça qui est assez étonnant. Et donc, après, j'ai cherché en ligne. Et en farfouillant, j'ai fini par trouver mieux se déplacer à bicyclette. Et c'était pas très loin de chez moi, donc j'ai écrit. Et pareil, j'ai eu une réponse tout de suite. Moi, j'ai écrit au printemps 2023. Donc, j'ai dû patienter un mois. Je pense que je faisais partie du pic du printemps. J'ai dû patienter un mois pour mon premier cours de vélo. Mais très, très contente d'être tombée sur cet organisme.
Et vous, Oumama, comment vous avez fait c'est une recherche sur Internet?
Non, même pas. En fait, c'est mon mari qui a vu Patrick en train d'enseigner. Et quand il a vu, il a vu Patrick, il a pris son numéro et je l'ai appelé direct. Il m'a dit de passer le samedi.
Et vous, Christine?
Moi, effectivement, je suis passée par des recherches sur Internet. Et donc,
sur Internet.
Sur Internet, oui, ouais. tout à fait. Et donc, j'ai trouvé l'association de Patrick. Et donc, j'ai écrit, j'ai eu tout de suite une réponse. Et tout s'est bien emmanché. Je sais pourtant j'ai su par d'autres qu'il y avait eu un peu des listes d'attente ou que certaines ne pouvaient pas être intégrées tout de suite. Mais moi, ça a été un timing qui a été favorable. J'étais juste libre. Oui, j'ai trouvé comme ça. Mais la recherche n'a pas été si facile. Parce qu'en fait, je commençais à chercher, alors que j'étais pas encore vraiment libre du temps que je pourrais avoir, mais c'était pour repérer. Et je trouvais que c'était un petit peu la galère de chercher. Et donc, s'il existe des structures et tout, je pense qu'il faudrait qu'elles se mettent plus en avant. Mais c'est vrai qu'il y a besoin des bénévoles, etc., qui sont pas non plus à la disposition de tout le monde. Donc, oui, là, il y a quand même une difficulté, je pense. Et il y a peut-être des gens qui peuvent être tout de suite découragés parce qu'ils trouvent pas.
Parce que c'est sûr, quand on, enfin, c'est ce que vous dites, Alexandra, je crois. Vous allez dans une boutique et personne, la boutique est incapable de vous dire où on apprend. Ouais. Vous, Nora ?
Oui, alors moi, j'ai commencé, quand j'avais cherché, je pense que ça quand même remonte à un an, j'avais déjà commencé à chercher, mais tout ce que j'avais trouvé, il y avait des listes d'attente, donc du coup, moi, ça m'a un peu démotivée, puisque j'avais l'impression que déjà pour accéder à l'apprentissage, c'était compliqué. Et ensuite, une fois, les balades, c'est le samedi matin, donc on les voit passer, on nous voit passer, je vais dire, on passe pas inaperçu, on a des dossards qui sont rose fluo, orange fluo. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, allez, je me relance. Et j'avais trouvé justement sur le site de Clichy. Et Patrick, il a répondu tout de suite. Il a dit qu'il fallait venir, qu'il y avait de la place. Donc, en fait, c'est ouvert et on a tout de suite l'impression de pouvoir accéder justement à cet apprentissage sans barrière.
Au fait, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est si c'est pas fluide, vous abandonnez. Presque. Alors, ou en tout cas, vous repoussez.
Oui, parce que souvent, quand on a envie de faire quelque chose, c'est souvent tout de suite. Moi, je vois que j'ai commencé en septembre, donc le timing était quand même assez serré, parce qu'après, il faut se dire, alors, il va commencer à pleuvoir, il va commencer à faire froid. Donc, enfin, moi, il y a 3 mois, ne sachant pas faire de vélo, ça restait quand même quelque chose de, il fallait que ce soit pratique, que j'ai envie de le faire, que ce soit pas dangereux avec la pluie et autres. Donc, c'était le bon timing, mais c'est vrai qu'en commençant, peut-être même après l'hiver, voilà, ça nous permet d'avoir encore plus de je sais pas comment dire, mais...
D'anticiper, oui.
Exactement.
J'ai quand même deux questions très pratiques. Pareil, on va faire un tour de table. C'est un, combien ça coûte, et deux, combien d'heures de cours vous avez eu besoin, enfin, alors, vous estimez, et peut-être que Patrick pourra nous le dire aussi après, en moyenne, combien de séances on est allé à peu près autonome. Parlons argent un peu. Combien ça coûte d'apprendre à faire du vélo?
Avec l'association, c'est 30 euros l'année.
C'est très, très abordable.
Ah, très,
ça
très
aussi,
abordable.
C'est vraiment...
Donc, vous payez l'adhésion.
L'adhésion.
30 euros.
30 euros.
Et vous avez autant de cours que vous en avez besoin.
Voilà, c'est le samedi.
Donc, vous payez 30 euros et vous avez autant de cours que besoin.
Voilà. Exact.
Donc, on peut pas dire qu'il y a un obstacle financier, parce que quand même, je pense que ça, c'est quand même raisonnable. Dès qu'on a des loisirs ou qu'on envisage de faire quelque chose, 30 euros, c'est vraiment pas grand chose. Donc,
Et alors, peut-être là, je vais me tourner vers Patrick. Là, en combien d'heures ou combien de séances, quelqu'un qui ne sait pas faire de vélo du tout, comme Nora ou Alexandra ou même Oumama, en combien de séances elles sont, comme Oumama, capable de venir à la radio à vélo?
En moyenne, on va dire 10-12 séances. Si au bout de ce délai-là, ça aboutit pas, bon, c'est que vraiment il y a un problème.
Mais... Il y a des des élèves qui ne passent pas le cap, qui n'arrivent pas à aller au-delà.
Tant que les gens progressent et qu'ils continuent à venir, on les garde quand même tant qu'on est assez de vélo. En fait, on n'a jamais laissé des gens sans vélo, parce qu'on en a plus suffisamment quand même. Mais il y a des gens aussi très rapides, hein, comme Nora, c'est assez exceptionnel.
Mais donc ça veut dire aussi quand même 10-12 séances, puisque c'est une séance par semaine ou deux séances par semaine?
Une fois.
Donc ça veut dire quand même une saison, c'est tout le printemps, c'est quand même un projet aujourd'hui d'apprendre à faire du vélo.
Oui, c'est bien, mais après il y a des gens qui viennent par intermittence, parce qu'ils travaillent un samedi sur deux, sur trois, ou avec des gardes alternées des enfants, mais bon, ça se perd pas, enfin... En quelques mois, ça suit bien.
Alors moi, j'ai fait 3 séances en cours d'école.
Ouais.
Et après, juste après, Patrick m'a proposé la quatrième, c'était justement en balade en extérieur. Donc c'est pour ça que j'avais le track. Je me suis dit, si Patrick me l'a proposé, c'est que il sait que j'en suis capable.
Ouais.
Comme disait Oumama, je ne serais pas allée de moi-même lui dire « Alors Patrick, quand est-ce qu'on va dehors ?» Alors là, c'était négatif. J'étais très bien dans la cour à rouler, à faire mes petites vidéos pour montrer à tout le monde que je faisais du vélo. Donc, je savais que Patrick...
Nora, l'influenceuse vélo.
Exactement. Et je savais que Patrick avait confiance. Donc moi, du coup, je me suis dit « Il faut y aller ». Et je pense qu'au-delà de la motivation, il faut quand même de la discipline.
Oui.
Moi, ce qui m'a appris quand même à prendre confiance, c'est d'y aller les 3 samedis et ensuite de faire les balades qu'on a faite. Donc, on a commencé, comme disait Christine, 8 km dans Clichy. Ensuite, on est allé un petit peu plus loin. On est allé à Levallois-Neuilly. Ensuite, on a fait Asnières. On a fait Gennevilliers. On est allé dans le...
Au parc des Chantraines.
On est allé au Bois de Boulogne. Mais ça s'apprend. C'est-à-dire que j'aurais jamais été capable de faire la balade de 21 km la première fois après trois. Oui. Voilà. Donc, en fait, parce qu'on apprend des choses. Moi, par exemple, j'ai appris entre ma première balade en extérieur et ma deuxième balade qu'il fallait que je mette ma roue de départ en l'air. Parce que ça m'arrivait. Enfin. Quand on doit démarrer, ben elle était en bas. Ben
La pédale.
Qu'est-ce que j'ai la roue ? Excusez-moi, la roue. Voilà.
Vous faites des roues arrière ou pas ? Non,
non, pas encore.
Pas encore.
Mais ça va venir.
Le temps file, ça fait déjà 55 minutes qu'on parle. Et au fait, j'aurais envie de vous poser à toutes les quatre une dernière question. C'est, alors, en introduction, vous nous disiez quelle était votre intention, pourquoi vous aviez envie de faire du vélo et les réponses étaient différentes. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter en 2025 ? C'est quoi le projet autour du vélo que vous avez ? Mais avant de faire le tour de table et de vous inviter à répondre chacune votre tour, votre projet 2025 ou votre envie de vélo en 2025, on va s'écouter Abel Guggenheim. Abel Guggenheim, il vient toutes les semaines nous proposer une chronique, une réflexion, une pensée autour du vélo. Merci en tout cas encore aussi à Abel d'être toujours là. Abel, on t'écoute, c'est à toi.
Cause commune à Paris. 93.1 en FM, sur le bloc 9A du DAB+, et partout ailleurs, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.
Bonjour, c'est ma dernière chronique de 2024. Je vais essayer de faire le point sur ce qui s'est passé cette année et les précédentes et dire ce qu'il me semblerait souhaitable de faire en 2025 et après. Je l'ai déjà exprimé ici, le problème est simple à énoncer. Pendant trois quarts de siècle environ, la voirie a peu évolué. Elle était divisée en deux domaines, la chaussée pour les véhicules et le trottoir pour les piétons, les zones de croisement étant bien identifiées et régulées plutôt au bénéfice des automobiles. Il n'y avait pas beaucoup de cyclistes et nous circulions dans les marges de ce monde, subissant, comme les piétons, la prééminence de l'automobile. Le nombre de cyclistes est maintenant sorti de cette marge et on cherche aujourd'hui à introduire, alors attention, un troisième domaine de voirie. C'est nécessaire, mais ça bouscule l'image que les autres sont de la rue et le comportement qu'ils et elles doivent y avoir. Les automobilistes qui s'étaient habitués à la soumission des piétons qui leur cèdent le passage même dans des situations où ils et elles avaient la priorité, ce que les cyclistes acceptent beaucoup moins de faire, s'étonnent à présent de devoir faire attention, rouler moins vite. Mais c'est surtout pour les piétons que le changement est difficile. Nous cyclistes n'avons sans doute pas assez tenu compte de leurs ressentis, mettant en avant le fait que le danger provenait statistiquement très largement des véhicules motorisés et nous abritant derrière la certitude que les aménagements favorables aux cyclistes l'étaient aussi pour les piétons, ce qui est souvent vrai mais pas toujours. Implanter une piste bidirectionnelle en bordure d'une voie large à sens unique, comme on l'a fait par exemple boulevard de Sébastopol ou rue de Vaugirard, n'est pas considéré par les piétons comme un apaisement de la circulation, mais comme une complication pour traverser la voie. On n'a pas non plus assez tenu compte des transports en commun, en particulier des autobus, et plusieurs aménagements favorables au vélo ont été réalisés au détriment des usagers des bus. Imposant des détours rue d'Amsterdam au 21 et au 95, rue de Reuilly au 46, rue Belgrand au 102 et à trois lignes de Noctilien. Sans doute a-t-on étudié ces aménagements d'abord en tenant compte des cyclistes, comme on le faisait jusqu'alors, en considérant d'abord les trajets des automobiles et ensuite les conséquences pour les autres. En étudiant en détail le doublement prévu de la piste cyclable des boulevards de Sébastopol et de Strasbourg, je me suis aperçu qu'en s'intéressant en même temps aux trajets des bus, il était possible de concevoir un nouvel aménagement plus favorable aux cyclistes, mais bien meilleur aussi pour les autobus et leurs usagers, permettant même d'élargir un trottoir à deux endroits où il est trop étroit. J'ai soumis ce projet aux trois comités correspondants où il a reçu un très bon accueil. Il est actuellement à l'étude dans les services de la ville de Paris. J'espère vivement le voir déboucher sur une réalisation effective. Et je souhaite que de même, les futurs aménagements de voirie, en 2025 comme à partir de 2026, soient plus pensés en harmonie entre les différents modes de déplacement et les types d'occupation de l'espace. Cette condition me semble indispensable pour que le développement du vélo à Paris ne soit pas mal vécu par les autres usagères et usagers de l'espace public qui n'ont ni plus ni moins de légitimité à les utiliser pour leur plaisir et leurs déplacements. À l'année prochaine, en 2025.
Et voilà, c'était Abel Guggenheim. Merci à toi encore, Abel. Et on va commencer avec vous, Alexandra.
Plus de vélo en 2025. Là, je suis contente, je l'ai intégré à mes vacances, à mon été, à mes retours de soirée. Mais je souhaite qu'en 2025, je puisse prendre encore plus le vélo et pourquoi pas en avoir un à moi.
Donc c'est de vous acheter un vélo ?
Ouais. À une bourse au vélo ou une affaire en seconde main, ouais, ça me ferait plaisir.
Christine, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter en 2025 et quelle est votre envie ?
Ça va être un peu la même chose que ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que oui, j'ai envie de pratiquer.
Ouais.
Ça permet effectivement de voir même un environnement qu'on connaît, de le voir autrement,
ouais.
Ne serait-ce que Paris, parce que Paris, c'est une ville magnifique et on est vraiment tout le temps en train de râler, parce que bon, c'est vrai que la civilité, tout ça, c'est un gros problème. On peut se faire des beaux itinéraires. Après, il y a évidemment les balades plus nature, mais bon, il faut aller plus loin. Donc, j'imagine que je vais pouvoir peut-être circuler un peu toute seule dans Paris.
Avec votre fils ?
Peut-être, oui. Je vais l'impressionner, j'espère, tout à fait. Et en plus, maintenant, il est papa, donc il y aura peut-être un vélo cargo avec l'enfant derrière, etc. Enfin bon. Mais effectivement, j'aimerais peut-être avoir mon propre vélo. Et comme je disais au début, ce sera un vélo modeste, parce que j'ai pas du tout besoin de quelque chose de reluit, enfin je sais pas,
il faut qu'il soit clinquant.
Voilà,
vous avez besoin d'un truc fiable,
oui.
Parce que vous avez pas envie de mettre les mains dans la cambouille.
Je voudrais quand même qu'il soit assez bien réglé, pas un vieux clou, parce que ça pourrait avoir l'effet contraire et un peu me décourager.
Ou maman, qu'est-ce que vous avez envie en 2025 de faire avec un vélo?
Déjà en faire comme j'en fais aujourd'hui, tous les jours, partir au travail, si jamais je change, sait-on jamais pouvoir en faire, parce que sincèrement aujourd'hui mon trajet il est pas si compliqué que ça, mais on sait pas ce que nous apporte demain, donc pouvoir en faire encore, et puis aussi faire le voyage qui m'a poussé la toute première fois à aller apprendre, et quand j'avais vu sur Insta des vidéos sur l'île de Ré, c'était ça en fait qui avait fait le déclic. Et pouvoir peut-être faire ce fameux voyage qui m'a poussé à apprendre à faire du vélo.
Donc c'est une envie d'aller pédaler à l'île de Ré ?
Exact.
Oh mais trop bien.
Ouais.
Canon, vous nous enverrez des photos.
Ça marche.
Nora, de quoi avez-vous envie en 2025 sur votre vélo ou pas ?
Alors pareil, c'est pouvoir aller travailler en vélo.
Ouais.
Donc toute seule, pouvoir...
C'est quoi la distance ?
Alors moi je suis vers Porte de Pantin. Une trentaine de minutes en passant par les Maréchaux, c'est faisable, hein. Je sais que c'est faisable, je vois les vélos, mais il faudrait que je sois accompagnée, je vais appeler une de mes collègues.
Il faut faire du co-vélo taf.
Exactement, on le fera. Donc voilà, ce serait d'avoir mon propre vélo, parce que comme ça on peut vraiment l'adapter, comme ça on n'a pas besoin de changer comme un Vélib', avoir mon propre vélo et puis pouvoir aller au taf, et puis je pourrais enfin dire que non pas je vole de mes propres ailes, mais que je roule de mon propre vélo.
Patrick, qu'est-ce qu'il faut, toi, de quoi tu as envie quand tu as ton école MDB, qu'est-ce qui te ferait plaisir quand tu es moniteur vélo comme ça?
Moi, j'ai aussi un passé de cyclotouriste depuis longtemps, depuis la grande adolescence, quoi. J'ai toujours fait du vélo en voyage et j'ai eu la chance de visiter toute la France à vélo.
C'est bien l'île de Ré à vélo ou pas ?
Et l'île de Ré, oui, j'y suis allé en 91. Et c'était un endroit où il y avait beaucoup de pistes cyclables à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose de... À part l'Alsace, il n'y en avait pas beaucoup dans d'autres régions comme ça.
Et alors, ton envie de vélo en 2025, parce que le temps passe.
Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé, mais...
Mais c'est une destination ?
On fait tous les ans, depuis une vingtaine d'années, avec les enfants, enfin ma famille, mes enfants qui ont grandi, on utilise beaucoup les voies vertes.
Ouais.
Les véloroutes et voies vertes, il y a plein de possibilités de faire des vacances faciles. Les vacances itinérantes, alors...
Une dernière question, et on va faire un tour de table. Si vous deviez donner un synonyme à vélo, selon vous, on va commencer par vous, Nora.
Je dirais un synonyme.
Ouais, un truc, qu'est-ce que ça vous évoque, votre vélo, là, votre envie de vélo? Juste un mot.
Je dirais liberté.
Liberté. Vous n'avez pas le droit de prendre la même chose, Christine?
Si c'était pourtant, honnêtement, c'est d'abord liberté.
Ok.
Après, on peut ajouter des tas de choses. Évasion.
Évasion. Très bien. Ce qui est assez proche de la liberté. Et vous, Mama ?
Le temps.
Le temps ? Ouais.
Parce que sincèrement, ça m'a changé la vie. Et ça, j'ai gagné énormément de temps grâce au vélo.
Trop bien. Et vous, Alexandra ?
Moi, je dirais rapprocher. Parce que le fait de faire du vélo, ça rapproche des monuments, des espaces qui étaient lointains, qui paraissaient inaccessibles. Et en fait, à vélo, c'est possible.
Eh ben super. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci beaucoup à Patrick. Merci. C'est la fin de Rayon Libre. Voilà une belle idée de résolution pour 2025. Que vous sachiez faire du vélo, en faire un peu plus. Et si vous savez pas faire du vélo, renseignez-vous, regardez sur Internet. Faites comme les dames qui étaient avec moi autour du micro aujourd'hui. Elles ont trouvé sur Internet, elles se sont renseignées, elles ont ouvert les yeux. Il y a des Patrick partout en France, un peu partout en France, même si nous, notre Patrick à nous, et on a envie de le garder. Je vous souhaite à tous une belle fin d'année, un beau début d'année. Et puis on se retrouve sur les pistes cyclables ou dans les parcs ou dans les forêts. N'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm et nous aussi, la lutte continue 93.fm, une année où on compte sur vous, sur vos dons pour continuer à pouvoir émettre, continuer à pouvoir vous proposer des programmes qui sont un peu différents, qui prennent le temps de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas souvent, pas beaucoup, avec un angle différent, des gens qui n'ont pas souvent l'accès aux médias tels que la radio, et la radio c'est quand même formidable. Et puis je me permets aussi d'ajouter vendredi le 3 janvier, c'est le premier vendredi du mois, c'est le premier vendredi de l'année. Comme tous les premiers vendredis de chaque mois, on vous retrouve, on vous attend au 22 rue Bernard Dimet à partir de 19h30 pour une soirée radio portes ouvertes. Venez boire un verre avec nous, partagez, et puis on aura une émission spéciale sur l'année 2025, quoi attendre et quoi faire, et comment commencer l'année sans être trop déprimé.
Rayon Libre.